Bienvenue dans les discussions de la chocolaterie. Un cycle de conférences organisé par l'École de la nature et du paysage, département de l'INSA, Centre-Val de Loire. Retrouvez ainsi régulièrement sur StudioZef et StudioZef.fr les captations des échanges entre les intervenants et le public. Bonne écoute!
Merci d'être venu à cette discussion. Donc aujourd'hui, on accueille Dominique Mention, qui est illustrateur, sculpteur, spécialiste des trognes et vice-président de la Maison botanique de Bourset. Donc cette association, elle a pour but de transférer des connaissances et des savoir-faire qui sont liés au monde végétal, afin de susciter des changements de perception et de comportement vis-à-vis de la nature et de l'environnement. Donc la Maison botanique Atelier Vivant, elle est située au cœur du Perche Vendômois, et donc elle est enracinée dans un paysage rural. C'était jadis un paysage de bocage riche de haies champêtres, de haies plessées et d'arbres têtards. Et donc aujourd'hui, Dominique Mention va nous raconter l'histoire de la trogne, cet arbre paysan au métabolisme complexe et à la conduite distordue. Merci.
Bonsoir à tous et à toutes. Oui, effectivement, je viens de Bourset, au nord du Loir-et-Cher, ce que j'appelle souvent le Perche méridional, parce que dans le Perche, il y a ce qu'on appelle le Grand Perche, l'Orne et l'Eure-et-Loir, qui souvent ignorent ce Perche vendômois, ce Perche un peu pouilleux. Et je viens vous parler des trognes. Et puis, comme image d'introduction, eh bien, je vous en montre une qui est assez spectaculaire. Celle-là, elle a peut-être 2000 ans, c'est pas impossible, elle a été prise en Crète. En Crète, ils se disputent, les Crétois, deux trognes d'oliviers, une qui aurait 3200 ans et l'autre qui en aurait 3000. Et l'une de ces trognes a servi pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 84-86, je ne sais plus trop, il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas nés d'ailleurs, pour offrir un rameau aux lauréats des compétitions. Et la présidente de Grèce est venue récolter ces rameaux. Et cette trogne de 3000 ans que j'ai vue en Crète donne toujours des olives avec lesquelles on fait toujours de l'huile. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir un monument vivant, plus vieux que tous les monuments de pierre, de briques et autres qu'on a dans notre patrimoine architectural. Bon, ça c'est pour dire qu'avec la trogne, c'est important de penser l'arbre comme un patrimoine, et un patrimoine lié à la fidélité de l'humain, de générations d'humains qui vont le récolter, le tailler pour des besoins dont on va un petit peu éclaircir les raisons. Alors, vous connaissez tous Francis Allais, j'imagine. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument lire ses présentations, ses textes, découvrir ses dessins. C'est quelqu'un qui est venu à Bourset, hein, chez qui je suis allé à Montpellier. Et Francis, qui a travaillé notamment sur l'architecture des arbres, eh bien pour lui, la trogne, c'est le résultat de ce qu'on appelle une traumatic reiteration, c'est-à-dire une réitération traumatique. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que ça veut dire que l'arbre est traumatisé. Mais en fait, dans la nature, l'arbre en permanence, lui qui n'a pas la capacité de se sauver de l'endroit où il a poussé, eh bien, il faut qu'il réponde en permanence à la tempête, au gel, à la glace, à un rocher qui va tomber, etc., en permanence. Donc, il a, au cours de son existence, développé des capacités fabuleuses de résilience, de capacité de s'adapter aux situations et aux pires situations. Et on va voir que ça a sans doute donné l'idée aux humains de faire des trognes, d'observer cette capacité de l'arbre dont on a souvent une vision un peu fixiste, au point qu'il y a certains même qui disent qu'il ne faut plus toucher aux arbres. Alors voilà une des plus grandes conneries qu'on peut dire aujourd'hui, et on va voir pourquoi. Voilà justement de la réitération traumatique. À gauche, un hêtre, forêt de Vibré, dans le nord du Perche, dans la Sarthe. Et vous voyez que ce hêtre qui avait dû avoir un accident, soit un engin qui est venu le blesser latéralement, soit un insecte qui a pu faire des dégâts. Eh bien, le vent a fait que son élan principal s'est couché et que suite à ça, on a une réitération. Le cas de droite est un peu identique, mais là, on est sur de l'érable champêtre. Tout ça pour dire que la plupart dans nos régions, pratiquement tous les feuillus, ont cette capacité de réitération, sachant qu'elle existe aussi chez les conifères, mais d'une manière un peu moins virulente, en tous les cas, chez certains d'entre eux. L'autre acteur de cette réitération traumatique, c'est l'animal. Alors chez nous, au bord de la Loire, où a été prise la photo que vous avez ici, c'est le castor sur les îles de la Loire, géré par le Conservatoire d'espaces naturels de Loire-et-Cher. Vous savez qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, à Blois, un grand congrès sur la réintroduction du castor qui a été réalisé par Jean-Pierre Jolivet, président du Conservatoire d'espaces naturels de Loire-et-Cher. Et c'est une réintroduction absolument extraordinaire puisque le castor aujourd'hui a colonisé une grande partie du bassin de la Loire. Et les termes comme beuvron, ça veut dire castor par exemple, la bièvre, tous ces mots qui rappellent que le castor était partout présent et qu'il a peut-être été aussi l'inspirateur pour les humains de la manière de faire des trognes. Alors ici, on est en vallée du Cher. Là, on est sur du peuplier noir, là, on est sur du saule blanc. Et vous voyez que cette trogne, trognée par le castor, fait à peu près 1,20 m de hauteur. Castor géant, ils ont existé dans l'Antiquité, enfin, il y a très longtemps, mais il y a très longtemps qu'ils ont disparu. Alors, quelle est la raison? Comment le castor a pu grimper là-haut pour faire cette trogne? C'est lors de la crue du Cher que le castor qui se nourrit du cambium et de l'écorce des arbres est allé, avec ses dents extrêmement acérées, couper cette trogne, ce saule blanc, pour en faire une trogne. Et à droite, alors là on est en Afrique, quel est l'animal qui a bien pu faire ce massacre? On ne peut pas dire que lui il y aille avec le dos de la cuillère. Non, il y va avec le dos de la trompe, c'est l'éléphant. L'éléphant est aussi l'auteur de trogne. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit du beau travail bien, bien net, mais il est aussi l'auteur de trogne. Donc, cette situation naturelle, cette pression permanente de la nature sur l'arbre est probablement la raison pour laquelle les arbres ont développé au cours de leur histoire cette capacité de réitération. Et ça, c'est quand même intéressant de le comprendre pour dire que quand les humains vont faire des trognes, finalement, il vaut plutôt aller dans le sens de l'arbre et de ses capacités que d'aller contre l'arbre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réitération? Eh bien, justement, les arbres ont cette capacité de stocker des méristèmes au sein de leur cambium. Le cambium, c'est la plus fine de l'arbre qui entoure sous l'écorce et qui va générer vers l'intérieur du bois qu'on va appeler l'aubier et vers l'extérieur qui va générer l'écorce, la protection de l'arbre et les zones au niveau desquelles vont descendre la sève brute, la sève élaborée. L'arbre, c'est un gros système de circulation extrêmement complexe dont on est loin de connaître tous les tenants et aboutissants. Mais toujours est-il que sa vie se passe par son pourtour et la coupe là, qu'on a réalisée sur ce chêne rouge a provoqué systématiquement, dès l'arrivée du printemps, l'émission, le réveil de ces bourgeons dormants, qu'on appelle aussi bourgeons latents, bourgeons adventifs, qui vont pousser partout, généralement autour des bourrelets ou des cônes d'insertion des réitérations précédentes. Ça peut aussi se provoquer plus bas sur le tronc. Donc voilà un phénomène que les paysans avaient observé et qu'ils ont mis en place ensuite avec des cycles de taille régulière. Et on voit sur cette coupe de charme comment effectivement ces bourgeons latents vont s'exprimer de l'extérieur. Et c'est pour cette raison que plus on fait une taille importante, plus on va avoir un dessèchement risqué du cambium par la table qu'on va couper, et plus aussi une fragilité avant que les bourrelets d'ancrage se forment pour tenir ces réitérations. Là encore, il faut lire Francis Allais, tous ces bourgeons dormants, ce sont des répliques de l'architecture de l'arbre qui les porte. Donc on est non pas sur des branches qui poussent, mais on est sur une forêt qui pousse. Une forêt ou une sorte de taillis avec une grosse concurrence. Et là, vous en avez l'exemple, là, on est sur un aulne, et vous voyez comment ces repousses développent des racines sur la tête là, de la souche. Alors la preuve par l'image, vous voyez ici une tronche de charme totalement creuse, et vous voyez la réitération et les racines qui se sont développées à la faveur de terreaux qui s'étaient formés dans la tête de cette trogne. Donc, quand les conditions sont favorables, ces racines se développent, vont gagner l'intérieur du tronc et peuvent rejoindre le sol dans lequel l'arbre est enraciné. Et on a des cas dans le bocage où ces racines, quand le tronc extérieur disparaît, ces racines en viennent même à remplacer le tronc initial. Alors, autre exemple ici de réitération, tout ce qui va pousser au niveau du collet qui a été enlevé, là on est au Maroc, hein, c'est une technique on est dans l'Atlas marocain, il y a un gros besoin de fourrage pour les chèvres et pour les moutons, et aussi il y a besoin de bois d'œuvre. Donc il y a une manière là de faire du bois d'œuvre, je dirais à bon marché, c'est de faire sécher l'arbre sur pied. C'est une technique pour faire sécher le bois et récupérer du bois de qualité quand on n'a pas des séchoirs électriques comme on a chez nous en France dans les scieries, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'arbre qui fait 15 ou 20 mètres de haut va se dessécher et vont repousser des petits arbres au niveau là, du pourtour du cambium. Et on voit même, on devine l'enracinement de ces petits pieds d'arbre à l'extérieur de l'arbre existant. Et là, on revient sur l'olivier qui a commencé la présentation, et au point qu'on peut même se rendre compte que ces réitérations arrivent carrément à être individualisées avec le réseau racinaire. Donc, si bien on est presque sur une forêt même qui peut être multiple et se différencier. C'est pour ça que la pratique, vous connaissez, vous avez peut-être vu en Mayenne ou en Sarthe, la tradition de laisser un tire-sève sur la tête des trognes, un gros tire-sève, eh bien, on sait que ça ne fonctionne pas. Parce que ce tire-sève, il est rarement réuni à l'ensemble du réseau de l'arbre. Il est souvent lié à un faisceau de racines et pas à l'ensemble de l'arbre. Et en plus, comme on le fait quand il est trop tard, ça marche pas non plus pour ça. Donc, je vous parlais de monuments. On en a un derrière. C'est ce tilleul qui fait 8,90 m de circonférence, totalement creux. Donc, c'est en fait une forêt. Là, c'est la photo que j'ai prise au cœur de l'arbre. Donc, vous voyez, c'est comme si on prenait une photo dans un bois, dans une forêt. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est pour dire qu'on est bien dans une situation où on est vraiment sur des arbres qui sont ancrés sur le pourtour de l'arbre qui les porte. Autre cas de trogne, avec ici un châtaignier, on est en Bourgogne. Et vous voyez que le fait de gérer les arbres de cette manière n'est pas une cause de raccourcissement de leur existence, de leur durée de vie. Là aussi, c'est une autre leçon des trognes, qui est que s'il y a des cycles de taille réguliers, on pourra en parler dans les échanges, la trogne, l'arbre, peut vivre beaucoup plus longtemps que son âge estimé naturellement. Alors ça, c'est un peu dérangeant pour certains, mais vous savez qu'un arbre, les fameux pins aux États-Unis qui auraient 5, 6, 7 000 ans dans les conditions les pires des forêts des rocheuses, où il fait très froid, où ça pousse pratiquement pas, comme les genévriers des forêts de l'Ardèche qui sont ancrés dans les falaises, on ne voit même pas les cernes de croissance tellement ça pousse peu. Eh bien, c'est les arbres, finalement, que ces conditions-là font qu'ils peuvent vivre très longtemps. En fait, quelque part, on peut sans doute créer des conditions similaires avec les trognes. Autre phénomène qu'on a pu apercevoir sur d'autres images précédemment, quand vous faites la trogne, quand vous la recépez, quand vous l'émondez régulièrement, et il y a le développement de bourrelets au niveau de chaque rejet que vous avez coupé, de chaque arbre que vous avez coupé. Ce qu'on va éviter d'appeler des bourrelets de cicatrisation, parce que ça, c'est une dénomination très, très humaine, c'est normal, hein, on ne peut pas faire autrement que faire avec notre parole et avec notre histoire d'animal. Mais l'arbre, lui, ne considère pas ça du tout comme un bourrelet de cicatrisation, puisque la partie coupée, comme on le verra un peu plus loin, ne va pas être cicatrisée. Elle va être recouverte, et c'est seulement le rapprochement des bourrelets vivants qui vont se cicatriser entre eux par contact. Donc il y a formation de bourrelets de recouvrement qu'on va aussi appeler bourrelets de renforcement simultanément, si bien que la trogne est même capable de remplacer le vieux tronc qui n'a plus d'utilité, d'usage, et qui va, il y a plein d'exemples où j'ai des photos, où le vieux tronc est par terre et la trogne a refait un tronc avec ses bourrelets qui se développent en spirale, et ce qui fait que la notion de renforcement est tout à fait cohérente, puisque le fait d'avoir une colonne spiralée la rend beaucoup plus résistante que si on n'avait pas cette déformation. Alors, si bien qu'on peut se poser la question avec les trognes, est-ce qu'on est dans un salon de coiffure, est-ce qu'on est dans une boucherie parce que vous voyez que les cheveux repoussent, le boucher il coupe, mais finalement, on est peut-être chez les deux. Hein, on est peut-être chez un boucher, on est peut-être chez le coiffeur, puisque ça va repousser et puisqu'on a aussi coupé. Là, on est au Pays Basque, sur du platane, on est en pleine ville, et vous voyez que l'arbre a cette capacité aussi d'absorber absolument tout ce qui peut lui faire obstacle, que ce soit des rochers, de la ferraille, du plastique, du bois, etc. etc. Si bien que ça a probablement aussi généré des croyances, des superstitions. Vous savez, une dévotion avec une vierge dans un arbre, la dévotion faiblit, l'arbre, lui, continue à grossir. Il va recouvrer complètement la statue qui avait été érigée. Puis un jour, on redécouvre la statue, l'arbre se creuse. Oh, miracle ! Voilà, il y a probablement des phénomènes qui sont liés à ça. Sachant qu'il y a aussi des trognes avec lesquelles on fait des dévotions. J'y pense maintenant, je ne l'avais pas mis dans la conférence parce que j'ai raccourci. Des fois, ça peut être très long, alors je fais attention. Des dévotions sur certains arbres. Il y a ça à Questembert, dans le Morbihan, où il y a une trogne, les gens mettent des langes, il y a une petite cage avec une statue, puis les gens viennent accrocher les langes, c'est pour guérir l'eczéma de leur nourrisson. Alors c'est assez drôle, parce que c'est les problèmes de peau, et on voit que la trogne, comme elle recouvre avec la peau qui est refaite, on peut y voir peut-être un lien très direct. Autre exemple pour montrer que l'arbre, il n'a pas besoin d'avoir un gros tronc pour pousser. Ici, un pommier, sans doute endommagé par une épareuse. Hein, vous voyez, alors ça choque rarement les gens, la brutalité des machines qui viennent accrocher le tronc. On voit ça sur tous les bords de route, on voit ça dans les villes, les tondeuses à gazon qui viennent accrocher l'écorce au pied du tronc. Alors ça, c'est le pire pour les arbres. Alors ici, notre pommier, lui, il a eu la délicatesse de se coucher. En fait, c'est un plaissage naturel. Et puis, ben, il y a suffisamment de matière vivante, de circulation pour que ça passe et pour qu'il fasse des pommes après avoir fleuri. Donc, il est arc-bouté sur quelques branches. Donc là encore, c'est pour vous donner une vision un peu décalée de l'arbre qu'on nous a un petit peu... Vous savez, l'arbre, quand même, dans les imaginaires, c'est un tronc très droit sans branches, un houppier, et puis un système racinaire dont on ne parle jamais. Et puis l'arbre, il peut même pousser sans tronc. Ben oui, pourquoi s'embêter ? Alors, un bel exemple ici, si vous allez à Saint-Marc-d'Outillé, dans la Sarthe, en face du cimetière, alors sans doute après une soirée bien arrosée, il y a un des habitants du village qui est sorti de la route et qui a coupé le tronc de ce tilleul. Et le tronc a été remplacé intelligemment par l'employé communal en mettant un poteau de châtaignier. un poteau mort, et si bien que notre tilleul vit grâce à ses voisins. Alors pourquoi ? C'est parce que les branchages de ces tilleuls sont attachés les uns avec les autres, et ça crée ce qu'on appelle des anastomoses, c'est-à-dire des greffes naturelles par grossissement des troncs, si bien que ce tilleul-là est alimenté par ses voisins. Sachant que les racines aussi des voisins sont sans doute en connexion avec lui. Donc c'est un arbre qui vit sans tronc. Donc nous, quand on sans tronc, on n'est pas bien. Hein. Sans cœur, c'est pareil. L'arbre, il peut vivre sans cœur et sans tronc. Vous voyez, c'est quand même assez différent, nous, de notre physiologie. Et de lui-même, notamment les situations de dégradation climatique, ça peut être une des raisons, des déficits en eau, eh bien, on va voir des arbres qui font la trogne, naturellement. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate ce qu'on appelle une descente de cime, c'est-à-dire que l'arbre n'arrive plus à alimenter, à faire monter sa sève brute jusqu'à son sommet, parce qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie avec le cortège mycorhizien au sol. Il y a un déficit en eau le plus souvent. Ou alors, il a plus la stimulation pour aller explorer plus loin les éléments minéraux qui lui sont indispensables, si bien qu'il réduit ses ambitions. Donc, il fait la trogne, qui ressemble d'ailleurs à la trogne faite par le paysan qui est à côté. Et un des critères de cet rajeunissement de l'arbre, c'est la marcescence. La marcescence, comme vous le savez, c'est la persistance des feuilles mortes jusqu'à l'arrivée des feuilles vivantes au printemps suivant. Et ça, c'est un signe de jeunesse chez les arbres. C'est souvent les arbres jeunes qui ont cette capacité de marcescence, alors que les arbres âgés le font beaucoup moins. Alors, un petit schéma pour un peu montrer la différence fondamentale qu'on va avoir entre un arbre qu'on va laisser pousser. Ici, il a quelques branches basses parce que sans doute on les a pas coupées au plus haut. Si on a les arbres forestiers qui sont gérés, comme le fait magnifiquement l'ONF, hein, pour faire du bois de déroulage, du bois de tranchage ou du bois de charpente, on va avoir des grands troncs dont on cherche à éviter les branches latérales. Donc c'est clair que ces arbres, c'est une gestion de l'arbre qui n'est ni plus ni moins une manière de gérer l'arbre, comme la trogne est une manière de gérer l'arbre, mais différemment. Donc cet arbre-là, si on veut en récolter le bois, la matière, la biomasse, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligé de le couper au ras du sol. Et là, ce qui va se passer, c'est que les réitérations, les bourgeons dormants, avec le temps, ne sont plus actifs. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus cette capacité de réveil qu'ont les bourgeons sur des cycles plus courts, si bien que l'arbre disparaît et son système racinaire va finir par disparaître également. Avec la trogne, vous conservez en permanence et le tronc et toute la vie qui va avec et son vieillissement, et vous conservez tout son réseau racinaire. Donc ça, c'est important, tout en récoltant régulièrement les productions de son houppier. Donc la trogne, on taille à hauteur et on taille suffisamment haut, d'où les formes de trogne les plus répandues, pour que le bétail ne vienne pas manger les repousses. Et là, on va essayer de se resituer avant l'arrivée des énergies fossiles, si bien que avant que n'arrive le charbon d'abord, le pétrole avec le fioul ensuite, et la mécanisation, l'arbre est la ressource essentielle des paysans. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On démultiplie le nombre des trognes pour pouvoir survivre. Donc la trogne, c'est d'abord ça, un arbre de survie. On ne fait pas de la trogne pour faire de la biodiversité, on fait de la trogne par nécessité de production, et de production qui se renouvelle, et avec la trogne, de production de proximité. Et puis, pendant qu'on y est, on va vous montrer quelques images pour comprendre un petit peu ce processus de réitération une fois qu'on a créé la trogne. Alors, c'est un geste, quand on ne l'a jamais pratiqué, qui fait peur. Et on comprend que ça fasse peur, puisqu'il a disparu de la vision. Et encore plus aujourd'hui avec le peu de gens qui vivent dans le monde rural. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un piquet vivant. C'est-à-dire qu'on va couper l'élan d'un arbre, on va couper toutes ces branches, parce que si vous laissez les branches de l'arbre, elles vont inhiber la réaction des bourgeons dormants, si bien que le fait, là, donc, février 2009, avril, on voit les premiers bourgeons dormants qui commencent à sortir de l'écorce, et puis ainsi de suite, jusqu'à janvier 2010, c'est-à-dire même pas un an après. Voilà le résultat de, vous voyez la marcescence d'ailleurs, de ce chêne au bout d'à peine un an suite à son étrognage. Et puis par la suite, c'est un chêne que j'ai suivi qui est près de chez moi, il y a même des rejets, des réitérations, des arbres qui vont être plus vigoureux que d'autres, dont on peut profiter pour obtenir une production supérieure de l'arbre. Et on peut même changer la configuration de la trogne et la faire plus haute si on le désire, dans le temps de sa jeunesse. Donc ça veut dire qu'au départ, il y a une grande plasticité et qu'on peut adapter la trogne à une situation ou à des besoins ou à, admettons qu'il y a une machine qui ait besoin de passer, on va faire la trogne plus haute pour pouvoir laisser passer le tracteur ou la fourgonnette. Donc ce que je vous ai montré en premier, c'est la forme classique qu'on appelle l'arbre têtard. Donc tétard, tête, hein, une seule, et c'est pour ça que le mot trogne convient mieux, parce que c'est celui du perche déjà et qui me tient beaucoup à cœur, et c'est celui qu'aujourd'hui utilisent les scientifiques, donc ça c'est une belle reconnaissance aussi de ce vocabulaire paysan, et c'est aussi le mot trogne qui montre bien qu'il y a vraiment trogne quand il y a relation avec l'humain et avec le végétal, alors que tétard c'est plus lié à l'animal. Autre forme, la forme en pied de marmite, la forme en gobelet, très répandue dans les forêts de trogne. Forêts de trogne du Pays Basque, forêts de trogne qu'on retrouve dans la DSA espagnole, etc. On va avoir ces formes qui vont être capables de recouvrir l'ensemble du territoire et de produire beaucoup plus puisqu'on écarte les possibilités de capter la photosynthèse en étêtant l'axe principal, mais en taillant aussi plusieurs charpentières pour écarter la production. Et ça, ça a aussi un avantage, c'est qu'on peut monter au cœur de la trogne, on pouvait monter au cœur de la trogne pour la tailler, ce qui est beaucoup plus difficile quand on a un têtard avec des rejets très denses. Alors, au bout de 200 ans ou 300 ans, ça peut donner ça. Là, c'est forêt de trogne du Pays Basque. Vous allez voir ça du côté de Sarre. C'est assez spectaculaire et ce sont des spots de biodiversité. On peut même aller jusque-là. Là, on est toujours au Pays Basque, côté espagnol. Vous voyez cette forme en étoile où on aurait... Hélas, elle n'a pas été gérée régulièrement. Il y a eu un abandon, comme aussi les autres trognes du Pays Basque. Et vous voyez comment sur les... charpentière horizontale, on a des réitérations verticales sur lesquelles on aurait pu faire des trognes. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, mais et ça, c'est vraiment par la connaissance des capacités d'arbres qu'on peut l'envisager. Autre forme de trogne qu'on va appeler émonde ou ragosse et qui persiste encore très largement en Bretagne, dans le bassin de Rennes, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, mais il y en avait autrefois dans toutes les régions. Quand vous regardez la carte postale ancienne, vous en verrez partout. Ce qui dit encore là le besoin de bois qu'on avait et de fourrage qu'on avait pour les animaux. Alors comment on procède là? En fait, on va émonder l'arbre sur une grande longueur et on va laisser là un vrai tire-sève. Parce que là, il y a la pression osmotique, il faut qu'elle aille tellement haut qu'on laisse ce tire-sève pour pouvoir enclencher le fonctionnement et le démarrage des bourgeons dormants tout le long du tronc. Et ensuite, on pourra supprimer ce tire-sève et voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est des véritables usines à fagots. Alors pourquoi les a-t-on laissés particulièrement dans le bassin de Rennes? Sans doute par tradition, mais probablement aussi à cause du vent, puisque ça joue un rôle brise-vent très, très important. Et là, on est sur des tailles tous les 4-5 ans, à peu près, pas plus. On est des cycles de tailles qui sont relativement courts. Et il y avait des besoins aussi. Bassin de Rennes, il y a beaucoup de potiers. Il y avait des besoins en énergie très importants. On peut aller encore plus loin avec cette forme de ragosse, c'est-à-dire qu'on peut faire des fusées latérales. Hein. Vous voyez, cette trogne, elle faisait 10 mètres de haut au minimum. Une photo de 1890, voilà la hauteur du personnage ici, plus de 10 mètres de haut, totalement creuse. 1906, la foudre tombe dessus et elle brûle pendant une semaine. On en fait une carte postale que je n'ai pas mise, je ne pouvais pas tout mettre. Et elle produisait témoignage de ce dessin qui a été fait aussi d'après cette trogne, 50 fagots tous les 8 ans. Donc tous les 8 ans, cycle de taille, c'était tous les 8 ans, tous les 9 ans dans le Perche, tous les 8 ans qui correspond à une sol quadriennale, c'est-à-dire une rotation des cultures sur le terrain qui faisait qu'on devait profiter de l'accessibilité du terrain à l'époque où il n'était pas mis avec des animaux ou pas cultivé, qu'il était en jachère, pour aller tailler les trognes probablement. Alors le plus étonnant là-dedans, c'est que quand on est venu habiter à Boursay, au lieu dit La Guinière, c'est là qu'était cette trogne. Je peux vous dire que des fois, il y a des signes qui vous font drôle. Hein. Ce n'est pas la Vierge dans la trogne, mais on n'en est pas loin. Alors, parmi les formes qu'on peut rencontrer, là, on se retrouve en Espagne, dans la DSA. La DSA, c'est à peu près 2 millions d'hectares, avec essentiellement des trognes de chêne vert ou de chêne liège, et avec des tailles qui sont, qu'on appelle des tailles en parasol. Là, on fait de la taille de prolongement de façon à écarter l'ombre, et ça, c'est assez extraordinaire. D'une part, ça va produire du bois. Le bois du chêne vert, c'est un bois extrêmement intéressant pour faire du charbon de bois en énergie, un bois très lourd, très dense, pour faire aussi des outils. Et en même temps, ça va stimuler la fructification des chênes. Et la, donc là, à l'échelle d'un arbre, vous voyez l'ombrage que ça fait pour les bovins. À l'échelle d'un territoire, eh bien, ça fait une grande ombrelle. Vous enlevez les arbres, c'est le désert. Alors, si on va vraiment vers du réchauffement climatique avéré, ben, on peut se dire que l'arbre, il a quand même ici des fonctions essentielles, pas seulement à la campagne, mais aussi en ville, comme vous le savez. Alors, le chêne vert, j'y reviens. Qu'est-ce que ça va produire avec les ports, le port d'Espagne? On a la pata negra, donc cette viande exportée dans le monde entier, où la vraie pata negra, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cochons qui sont à la fin engraissés avec les glands du chêne vert. C'est aussi un arbre fourrager. Les vaches corses qui sont en liberté, elles raffolent de feuillage de chêne vert. Les vaches de l'INRA de Lusignan sont trop bien nourries par ailleurs. Et pour l'instant, ça ne leur dit pas grand-chose. Et puis, ben, la qualité du bois, comme je disais à l'instant. Et par alternance, on va cultiver ces parties-là, parce que le fait d'avoir de l'ombre, le fait d'avoir eu du bétail qui a pâturé et qui a déféqué, fait que ce sont des parcelles qui deviennent fertiles. En plus de tout ça, cerise sur le gâteau, pour ceux qui font de la chasse, ce sont des grands territoires de chasse où des gens viennent chasser du monde entier. Ce n'est pas mon cas, hein, rassurez-vous. Autre exemple de résilience de l'arbre et de manière dont a l'arbre pour aussi et dont les humains ont bénéficié de ses capacités, c'est la trogne à greffons. La trogne à greffons, on trouve encore ça en Ardèche, hein, la photo est faite en Ardèche. C'est une trogne ici sur le châtaignier qu'on va tailler tous les ans pour avoir le maximum de greffons d'une variété qu'on a repérée naturellement dans la nature par le brassage génétique naturel. Et donc des belles châtaignes délicieuses, comment on va faire pour en avoir en quantité par la suite? Eh bien, on va démultiplier les greffons pour faire des greffes. Ici, une greffe en flûte ou en sifflet. Et donc, on va enquiller une partie du greffon sur le pied franc. Et ça va se coller, se greffer pour faire le châtaignier qui va devenir cet arbre immense qu'on rencontre dans les châtaigneraies d'Ivoile-Marron en Sologne, par exemple, pour le plus près d'ici, ou dans la Sarthe, ou dans toutes les régions où le châtaignier voulait bien pousser. Si bien que ça donnait une quantité phénoménale de variétés de châtaignes. Vous savez qu'en Sologne, par exemple, un moyen de subsistance des Sologniaux, c'était de vendre des châtaignes aux Beaucerons. Parce qu'ils avaient des châtaignes très, très hâtives qui leur permettaient d'avoir un revenu de cette manière-là. les châtaigniers étant pâturés par le bétail et pouvaient être aussi cultivés avec du seigle. Donc là encore, de l'agroforesterie au sens propre. Une autre essence qu'on va trouver en Trogne, notamment dans les Deux-Sèvres, sur les terrains argilo-calcaires, qu'on a aussi dans le Perche, mais de manière plus rare, l'érable champêtre. L'érable champêtre, c'est une essence extrêmement intéressante, extrêmement vigoureuse et productive. Et ceux qu'on a mis sur le chemin des Trognes à Bourcey pètent la santé. On est obligé de les tailler très souvent parce que ça produit. Alors, on parlait tout à l'heure de... pour la boulanger, vous voyez, c'est, alors ça, c'est du pain béni, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, la trogne était aussi l'arbre des boulangers, notamment certaines essences. Et voilà, donc l'érable champêtre, ici, une trogne à Bourcey qui fait, je n'ai pas mesuré, mais elle fait au moins 80 cm de diamètre. Ici, une vieille trogne dans le Perche, dans le Haut-Perche, dont il manque une partie du tronc, mais on pourrait retrogner les rejets. Vous voyez, il ne reste plus que la peau, mais elle est tout aussi vigoureuse. La concurrence, souvent, c'est les arbres voisins et le manque de lumière que ça peut donner. Et ici, une jeune trogne qui est partie pour devenir celle-là, puis celle-là. Une autre essence très répandue, je considère que c'est la cinquième essence feuillue répartie en France, hein, menacée aujourd'hui par la calerose, un champignon qui nous vient des pays de l'Est, après être passé par ailleurs. Le frêne. Le frêne, connu de tous les paysans comme un arbre fourragé de grande qualité et qu'on gérait avec des cycles de taille relativement courts, tous les 3 ou 5 ans maximum, pour récolter le maximum de feuilles, données soit directement dans les parcelles au bétail, soit faites sécher sous forme de fagots. Et ça, ça avait lieu dans les pays de montagne, dans les pays où la période d'herbage est très courte, et qu'on donnait en hiver sous forme de feuilles de sèche au bétail dans l'étable ou dans l'écurie. Ici, on est dans le marais Poitevin. Vous avez d'un côté des trognes à hauteur suffisante pour que les vaches ne puissent pas les brouter. Et ici, on est sur une terrée, une île sur laquelle on cultivait la maugette, le chanvre ou d'autres choses, ou du maraîchage. Si bien qu'il n'y avait pas nécessité de faire des trognes très hautes. Ben oui, pourquoi aller s'embêter et les faire à 2 mètres de haut quand on peut les faire plus bas. Et puis le jour où on a mis des vaches dans la parcelle, eh bien on a rehaussé la trogne, c'est-à-dire qu'on a sélectionné un ou deux ou trois rejets quelquefois, et puis on a fait la trogne plus haute pour que sa production ne soit pas, ou que l'arbre ne meure pas suite au broutage du bétail. Et ça, c'est une trogne, justement, je vous parlais de l'INRA de Lusignan, l'INRAE, oui, j'ai mis le E, parce qu'attention, maintenant, l'INRA, il y a un E à la fin, qui veut dire environnement. L'INRAE d'Usignan a un programme de recherche qui s'appelle Oasis, avec un Y, vous pouvez aller voir sur Internet, sur les arbres fourragés, dont je suis un peu aussi un conseiller, et notamment avec l'idée, entre autres, des expérimentations qui sont faites, de faire pâturer le bétail directement sur les arbres, en contrôlant, bien sûr, la pression des vaches sur ces arbres. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on arrive à des solutions comme ça, c'est qu'on va limiter la main-d'œuvre nécessaire à donner le feuillage au bétail, sachant que le bétail, de toute façon, dès qu'il a des haies, dès qu'il a des arbres, toutes les feuilles à sa disposition vont être broutées pour ses besoins alimentaires, mais ses besoins aussi sanitaires. Et puis là, toujours dans le marais Poitevin, j'ai découvert, c'était lors d'une visite avec les agents du parc naturel, ces deux arches assez étonnantes. Et bien là encore, c'est de l'anastomose, hein, de la greffe qui a été favorisée par rapprochement des troncs. Et ça nous fait deux arches vivantes autour de cette petite passerelle qui passe au-dessus d'un petit canal. Ça, vous pouvez le faire, hein, ça fonctionne très bien. Donc il y a plein de solutions. Là, je ne sais pas si on enseigne ça dans les écoles du paysage, mais je pense que ça va venir, je l'espère. Ah, voilà. Alors ça, c'est quand même le nec plus ultra de la trogne, dû au génie des paysans berbères, berbère ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas trop, parce que ma mémoire souvent flanche un peu. Qu'est-ce que c'est ? C'est un frêne endémique d'Afrique du Nord, le frêne dimorphe, qui a cette particularité d'être géré de façon à ce qu'il produise beaucoup plus de fourrage. Alors, ce qu'ont découvert les bergers, c'est qu'en associant, en reliant plusieurs semis, donc en fait, comment ça se passe ? On a des semis de frêne qui se développent au milieu des pierres, au sol, qui sont systématiquement broutées par le bétail. Et puis, si on les broute pas, hein, ça fait des petits buissons, des coussinets qui arrivent à survivre. Alors, ce que font les paysans, les bergers ? Ils protègent ces semis avec un puits de pierre, de façon à faire pousser droit les troncs, et surtout à les protéger, bien sûr, des chèvres et des moutons. Et arrivé le moment où les moutons ne vont plus manger les troncs, donc les troncs sont attachés entre eux, de façon à provoquer les greffes, l'anastomose de chaque tronc avec son voisin. Et le résultat de tout ça, ce sont ces trognes qu'on a ici et là. Là, on voit que l'anastomose, on voit pratiquement plus l'individualité des troncs. Et là, on le voit encore. Et ça génère une productivité supérieure des arbres. Ça a été étudié par l'IRD de Montpellier. Et aujourd'hui, les derniers résultats de ces recherches montrent qu'il y a probablement une stimulation mycorhizienne des champignons au niveau des systèmes racinaires, qui est la raison de cette production supérieure. Alors, ces frênes, ils sont récoltés pour plein de raisons, pour les graines qui sont utilisées, pour le feuillage, pour le fourrage, évidemment, pour faire du bois de feu pour la cuisine, pour faire du petit bois pour les charpentes, pour faire des perches, et carrément aussi carrément du bois plus gros pour faire des solives ou des poutres dans la maison. Et on a sur le même arbre plusieurs cycles de taille qui peuvent être tous les 4 ans, tous les 8 ans, tous les 12 ans, voire plus. Donc sur le même arbre, on a plusieurs cycles de récolte. Une autre essence extrêmement productive, extrêmement présente aussi au bord de l'eau, au point que certaines personnes, qu'il n'y avait de têtards que les saules. C'était assez étonnant de voir comment on est façonné par son paysage. Si vous allez aux Pays-Bas, effectivement, vous avez de la trogne de saules partout. Donc on pense qu'il n'y a que les saules qu'on gère en trogne. Si ce n'est que Van Gogh avait quand même avait peint des trognes autres que de saules. Il avait peint des trognes de bouleau et puis des trognes de chêne. Lui, il avait, avec son œil d'artiste, vu qu'il n'y avait pas que le saule. Alors le saule, comme le peuplier, ce sont deux essences de chez nous qui ont cette capacité de pousser sans racines au départ, ce qu'on appelle par bouturage. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper un des rejets et on va faire un bâton, un piquet, qu'on va enfoncer dans le sol le plus possible. On le plante à l'envers ou à l'endroit, ça n'a pas d'importance, et ça pousse. La partie dans le sol va émettre des racines et la partie aérienne va émettre des bourgeons qui vont donner des feuilles et des rameaux. Et ça va très vite au niveau productivité. Voilà la production ici de deux trognes pas très vieilles, à peine une trentaine d'années, taillées au bout de 4 ans avec plus d'un ster de bois produit. Cet énorme fagot qui est là avec des rejets qui font plus de 7 mètres de long. Une étude faite par les Belges a montré que le saule blanc, comparé au chêne pédonculé en productivité, quand tous les deux sont dans des sols qui leur conviennent, le saule blanc a une production de biomasse bien supérieure à celle du chêne, même si le chêne pousse vite. Un saule qui est souvent méconnu et qui est présent partout parce que lui se ressème naturellement le long des fossés, autour des mares, le long des cours d'eau, quand il y a des travaux de décapage, des graines légères. La graine de saule, ça pèse presque rien. Et il faut que ça s'enracine tout de suite dans un saule nu, un peu comme le peuplier noir sur les bords de la Loire. C'est le saule cendré qui est très présent en Sologne. Et ici, on a justement une jeune trogne de saule cendré, et là, un groupe de trognes, soit une CP, soit des sujets individualisés, dont les moutons raffolent comme fourrage. Alors, un autre saule intéressant et très présent, très intéressant d'ailleurs par sa coloration, la coloration de son écorce, c'est l'osier, le saule-osier. Donc c'est un saule blanc, une variété Salix alba, variété Vitellina. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, comment ça démarre, c'est ça. Donc la bouture, on l'appelle plançon. Dans l'eau, ça va donner ça. Ben, dans le sol, pareil, ça va faire un système racinaire qui va se développer. Et ça va très vite. Et on peut faire plein de choses avec, de la vannerie, évidemment, des clôtures et bien sûr des cabanes de toutes sortes. Alors, ils étaient très présents dans les vignes. Quand vous passez dans des régions de vignobles et que vous voyez des osiers qui sont encore présents, ça veut dire que les paysans les utilisent toujours sans doute pour la vannerie, parce que ça servait à tacher la vigne avant qu'on utilise le plastique ou la ferraille. Et puis, si vous en voyez un très grand, eh ben, c'est probablement le témoin de la présence de la vigne. Parce que comme un saule blanc, cet osier devient très grand, ce que ne fait pas le saule des vanniers, qui lui est un arbuste. Et vous voyez, là, on a même carrément du plaissage, de la réitération sur la plaisse et de la trogne qui a été faite sur ces réitérations. Le peuplier noir. Alors, le peuplier noir, il est spontané dans toute la vallée de la Loire. Et Marc Villard, qui était encore il y a peu à l'INRA d'Orléans, était chargé de rechercher les peupliers noirs d'origine qui n'ont pas été pollués par les peupliers inter-américains pour la populiculture. Et Marc a beaucoup travaillé justement sur les vieilles trognes de peupliers noirs, très présentes dans toutes les régions où il y avait ce peuplier, pour retrouver des origines qui n'ont pas été perturbées par les introductions. Si bien qu'à la pépinière de Guéméné-Pinfao dans le Morbihan, on a tout le panel des peupliers qu'on peut planter selon les régions. Et ça peut être intéressant à savoir pour vous si vous êtes amené à faire ce type de plantation, voire de bouturage. Ici, on n'est pas du tout dans la vallée de la Loire, puisqu'on est en Aragon, entre Valence et Madrid, et sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, et c'est le seul bois de charpente d'œuvre pour l'habitat qui était disponible, si bien qu'on utilisait ces rejets tels quels, taillés tous les 10-15 ans. Et je crois que j'ai mis une photo. On voit la taille. Ah, je n'ai pas mis les photos de l'habitat, je suis désolé. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que Ravière de Rheim, que vous avez sur la photo, a créé un parc culturel du peuplier noir. C'est pour montrer que ces savoirs paysans peuvent être aussi l'objet d'une transmission. On peut tout à fait aller visiter un zoo à Lacon, comme on peut aller découvrir des savoirs paysans autour d'un parc culturel avec les arbres ététés, qu'on les appelle en Espagne, et le chopo cabecero, la trogne de peuplier noir. Le tilleul à grande feuille, tilleul à petite feuille, le croisement des deux, formidable arbre en trogne, arbre des villes par excellence, avec notamment une gestion en tête de chat, parfaitement adaptée à la ville, et arbre de biodiversité, parce que ces têtes de chat, si vous regardez les secteurs où il y en a, vous verrez très souvent des nids, des installations, il y a tout un cortège de vie qui vit dans ces arbres ainsi taillés. Bien sûr, on les plantait aussi en ville pour la récolte des fleurs. Aujourd'hui, on les gère en trogne, notamment pour récolter les bourgeons, hein, pour la médecine. Et autrefois, on l'utilisait comme fourrage urbain, parce qu'il y avait du bétail dans toutes les villes, hein, des chevaux, des lapins, etc., etc. Alors, comme système de résilience, hein, c'est le tilleul, il est quand même assez champion dans son domaine. Vous voyez, là, deux trognes de tilleul qui n'étaient plus taillées. Pouf, elles se sont couchées, c'est sur un talus normand. On voit les réitérations de la base, et là, on voit les réitérations du sommet. Mais par l'attirance apicale du bourgeon dominant, ça pousse verticalement et ça ne pousse pas horizontalement. Toujours dans le même secteur, en Normandie, une CP plate de tilleul sur un talus. On voit les têtes des troncs qui sont en train de se souder, s'anastomoser. Et ici, les réitérations de base, plutôt que d'essayer de les faire disparaître bêtement au bas, on peut les tailler plus haut pour protéger la base du tronc. et de, des engins, des voitures, des camions, etc., etc. Et on peut même envisager de les plisser pour faire une haie basse qui relie les tilleuls les uns avec les autres, si, ben, si c'est possible de le faire, bien sûr. Autre essence qu'on va trouver en Trogne, beaucoup moins chez nous dans nos régions, mais dans les pays de l'Est, c'est le sureau noir, de façon à en récolter les fleurs et les fruits d'une manière beaucoup plus dense. Alors là, c'est vraiment l'agroforesterie par excellence, puisqu'on a la culture intraparcellaire et on a la production des arbres à ce niveau-là. Et le sureau, qui est une essence extrêmement intéressante à tout point de vue, bien sûr, pour les liquides qu'on peut en tirer, mais aussi le bois avec lequel on faisait des manches autrefois. Et les enfants, les enfants qui ont connu cette période où il y avait encore du bocage, on faisait... Bon, bien sûr, ce n'est pas très exemplaire dans la classe d'envoyer des boulettes à son voisin, mais qu'est-ce que vous voulez quand on aime jouer, le sureau est là pour bien nous aider. Oui, tiens, ça me fait penser, le sureau, à Mayotte, dont on a beaucoup parlé récemment. Il y avait justement, parmi les agents de la ville de Nantes qui sont venus à la maison botanique, un employé de la ville de Nantes qui vient de Mayotte et qui expliquait que là-bas, il y avait des trognes d'ylang-ylang taillées pour densifier la floraison et pour éviter d'avoir des fleurs à cueillir tout en haut des branches. Donc là, on taille en trogne de façon à grouper la floraison des arbres. Et puis, une forme de trogne, c'est bien sûr la vigne. La vigne qu'on faisait traditionnellement grimper sur les arbres et au sein de laquelle on mettait aussi des arbres. Alors, il faut aujourd'hui un petit peu envisager les problèmes climatiques et se dire peut-être qu'il ne faut pas oublier d'anticiper des essences plus méridionales comme le micocoulier qu'on a à Blois planté en arbre d'alignement le long de la ville, donc en Trogne, lui, dans le sud, du côté dans l'Hérault, il y en a partout, dans Montpellier même, il y en a beaucoup. Donc se dire qu'aujourd'hui il y a des essences, souvent d'ailleurs, qu'on trouve en ville, qu'on peut imaginer aussi dans le bocage. Et pourquoi pas d'autres essences comme l'eucalyptus, sans doute plus sympathique en trogne quand certains boisements qui brûlent rapidement et qui appauvrissent pas mal le cortège de biodiversité. Et le catalpa aussi, de même que le polovnia. Enfin, toutes ces essences, certaines, on les a mises sur l'arbre et trogne qu'on a réalisé à Bourcey. Alors, cerise sur le gâteau ou nid sur la trogne, eh bien, toute cette gestion de l'arbre va bénéficier à un cortège considérable d'animaux, et même très vite, avant que l'arbre ne développe des cavités ou ne développe une complexité importante de son tronc, puisque sur une jeune trogne, très vite, on va trouver sur le plateau créé par la trogne un nid qui va s'installer. Ça va être une tourterelle, un pigeon, un merle, une griffe d'reine, etc., etc. Et cette morphologie qui va se complexifier avec le temps va être favorable au grimpeau qui va trouver une écorce pour aller glisser son nid, au troglodyte qui va profiter de la petite corniche, là encore, pour mettre à l'abri sa couvée, etc., etc. Et puis, n'oublions pas dans ce cortège tous les invertébrés, plus ou moins recensés, comme les araignées, comme les arthropodes, etc., et puis même tout le petit monde qui va vivre plus près du sol. Mais justement, pour expliquer comment se forment ces cavités, on voit comment le recouvrement de la coupe précédente a été opéré. Et puis là, ça ne s'est pas totalement recouvert, si bien que l'eau et les champignons, les bactéries, là encore, vont participer à la dégradation du bois de cœur. Et au bout de 500 ans, ça peut donner ça. On est sur un frêne, si on a continué, donc un frêne 6 mètres de circonférence dans le bocage des Deux-Sèvres, totalement creux et qui est en pleine vitalité. Et là, dans ce bocage de Mayenne, quand j'ai fait la photo, il y a la huppe qui chantait. Et probablement, je n'ai pas eu le temps de faire une petite exploration. Probablement, elle avait son nid dans l'une de ses trognes de chêne. Et on voit bien tout ce cortège d'oiseaux, notamment, qui vont profiter des cavités qui vont être évolutives avec le temps. D'où l'importance aussi d'avoir des trognes de différentes essences, de différents âges, pour qu'il y ait un renouvellement de ces cavités. Et en ville, on va trouver dans les platanes du sud de la France très souvent le petit duc, le hibou petit duc qui va être présent, et aussi les chauves-souris dans les platanes, hein, c'est très très étudié et c'est important puisque ça fait partie des mammifères les plus menacés de nos régions. Et puis le fin du fin dans tout ça, c'est quand même avec la présence de terreaux qui se forment au cœur de ces arbres, l'abri d'espèces qu'on appelle des espèces saproxyliques, espèces qui vont, dont les larves vont digérer le bois mort du cœur au sein de ce terreau. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ce sont des espèces témoins de nos forêts primaires. Primaires. On sait que les forêts primaires, aujourd'hui, on a complètement mis... ce n'est pas des forêts qui étaient exemptes de la présence de l'homme. On le sait de plus en plus en Amazonie. Toutes les études récentes montrent que l'homme était présent partout en Amazonie. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus de forêts primaires. C'est clair. Les seules forêts primaires qu'on ait, c'est les trognes. Au point que dans le vieux bocage de la réserve régionale des Antonins, dans les Deux-Sèvres, Alexandre Boissineau, qui est le chercheur qui étudie les vieilles trognes de ce bocage, a recensé 7 espèces de coléoptères qu'on trouve encore dans les restes de forêts primaires de l'Europe de l'Est. Et puis on va rencontrer aussi dans les trognes des micromares. Alors, micromares avec des espèces adaptées aussi à ces milieux confinés et quelquefois provisoires qui vont vivre dans... En plus, ça fait des lieux où les oiseaux vont se baigner. J'ai vu ça dans des platanes aussi dans le Pays Basque, les oiseaux qui se baignent en ville dans les baignoires qui sont dans les platanes à hauteur. Ça sert également d'abreuvoir en même temps que de baignoire. Et puis, le pic pêche, qui a souvent été l'initiateur de certaines cavités, va faire des cavités qu'il va occuper qu'une seule fois, généralement. Et ensuite, ce seront d'autres espèces qui vont les visiter ou les occuper, comme les abeilles, puisqu'on trouve très souvent des ruches naturelles au sein de ces arbres. Mais ce ne sont pas seulement des abris ou des réceptacles pour la faune. La flore a aussi s'y installer, comme ici, dans ce platane dans l'Hérault, qui a réussi à trouver les conditions favorables avec le terreau pour y développer ses racines. Et là, c'est carrément un merisier qui a poussé suite à un merle ou une grive ou un étourneau qui est venu fianter dans l'arbre. Et le merisier a développé certainement ses racines jusqu'au terrain dans lequel se trouve le saule. Et donc, on a 10 ans. On est ici avril 2011, avril 2021. Vous voyez que le merisier est toujours là. Il grandit et le saule aussi. Le saule est en fleur. C'est un saule femelle. Et le cerisier est en fleur aussi. Le cerisier est en hermaphrodite. Et puis, ça fait partie, les enfants des campagnes, voire des villes, quand on voit les magnifiques espaces jeux avec du plastique, et qu'on peut rencontrer. C'est quand même merveilleux de jouer au milieu du plastique, gazon en plastique, installation en plastique, en ferraille, en matériaux composites. Et bien, autrefois, les enfants vivaient dans les trognes ou sur les trognes. Voilà. Et on peut même se faire des trognes aujourd'hui. Ici, une trogne cabane avec un pommier que j'ai fait pour mes petits-enfants qui viennent récolter les pommes quand elles sont mûres ou respirer le parfum des fleurs, quoique les fleurs de pommier ne sont pas très parfumées, quand il est en fleurs. Et puis ici, une trogne de charme qui a même son chapeau qui est fait à partir de réitération également. Alors la trogne aujourd'hui, c'est de plus en plus un arbre qui va être géré non pas pour faire du bois bûche, mais pour faire ce qu'on appelle de la plaquette, du bois déchiqueté qui va notamment servir comme bois énergie. Là, à Juverdeil, en Maine-et-Loire, la commune a une chaudière communale alimentée par le bois du bocage, à la fois les trognes et les arbres des haies. Et la commune, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait en même temps un travail pédagogique pour faire comprendre aux habitants ou aux visiteurs l'intérêt des trognes pour la biodiversité. Et ce bois broyé, c'est une biomasse précieuse, ce n'est pas un déchet. Il y a encore des gens quand même qui font des allers-retours dans les déchetteries, c'est assez étonnant. Comme quoi, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. C'est très précieux. Donc, on va faire de la litière pour les vaches, pour les enfants de Paris sur les aires de jeu dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas de comparaison entre les enfants de Paris et les vaches. Ce n'est pas le même bétail, mais ça marche tout pareil. Et puis pour les plantations, pour les espaces verts des villes, et puis pour amender les sols dégradés, pour ramener de la lignine, dans ces sols qu'on a massacrés avec des pesticides et autres engrais. Et pour les plantations de haies, ben ça c'est formidable parce que c'est quand même beaucoup mieux que le pétrole du plastique noir qu'on avait lancé avec des dérouleuses à plastique. En France, il y a des milliers de kilomètres de plastique sous les haies qu'on plante depuis 60 ans suite à les bonnes intentions de Dominique Sautner et de Guy Naudot de l'Institut pour le mouvement forestier. Mais aujourd'hui, même si on plante encore sous plastique, ce serait quand même assez heureux d'arrêter. Alors, quelques notions sur le plessage. Le plessage, c'est encore plus choquant aujourd'hui quand on fait des formations à Bourset, à la Maison botanique, parce qu'entailler un arbre et pour le faire, pour le coucher, pour le faire pousser différemment, alors ça choque encore plus que de faire une trogne. Et il faut oser entailler les trois quarts de l'arbre, parfois plus, pour avoir une production qui va être sur des réitérations verticales sur le tronc horizontal ou oblique. Voilà un exemple ici chez ma fille en Bretagne. Il y avait un mur inesthétique du voisin, une partie où ce n'était pas possible de planter, mais trois frênes qui avaient poussé, trois ou quatre frênes, quatre. Donc l'idée a été de plesser ces frênes, d'en plesser un et les autres de les gérer en trogne pour faire une haie qui va fermer cet espace ouvert. En même temps, il y a un détour qui vient cacher, habiller la boîte aux lettres ou les boîtes aux lettres, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une voisine. Voilà ce qu'on peut faire avec du plessage et du surplessage. C'est-à-dire que les brins qui ont poussé, on peut à nouveau les plesser pour densifier le plessage. On a même fait un petit oculus pour quand elle sort de sa cour, qu'elle puisse voir s'il n'y a pas une voiture qui arrive dans le chemin. Et puis, on peut aller jusqu'à faire du plessage aérien entre des trognes pour mettre en valeur dans une ferme, par exemple, le panneau pour dire qu'on vend des produits bio, etc. Vous savez, quand les ventes à la ferme, si vous y allez, quelquefois, on ne peut pas dire que le cadre de vie d'accueil soit toujours des plus affriolants. Donc, on peut imaginer qu'avec le plessage, on puisse rendre cet espace de vie plus agréable et pour celui qui y est en permanence et pour ceux qui viennent faire leurs achats. Voilà une haie qu'on peut tailler différemment plutôt que la tailler toute raide et dans laquelle on peut mettre justement des trognes. C'est de l'accueil à gîte à la ferme. Voilà un bel exemple. Donc c'est possible. Ici à la maison botanique, pour dire qu'on peut mettre des chênes, des érables champêtres au ras des bâtiments dans la mesure où on les gère en plessage et en trogne, puisqu'on va en même temps récolter la production. Le platane, un bel exemple justement d'arbre urbain qui va s'anastomoser pour faire des ombrages. Et ici, à Marrakech, un bel exemple. Alors ça, je pense toujours au jardin de Patrick Blanc, vous voyez, sous perfusion, qui ont été très à la mode, puisqu'il y en avait un quand j'ai fait le jardin au Festival de Chaumont. Eh bien, on pourrait imaginer des balcons avec des trognes pour faire de l'ombrage et qu'on puisse récolter. Enfin, je ne détaille pas, mais on pourra en parler. J'accélère. Ici, des trognes sur les autoroutes, c'est possible. Ici, un petit rappel du jardin des trognes que j'avais fait au Festival de Chaumont en 1999. Voilà la création du jardin. Je vais vite, qui a donné ensuite le chemin des Troyes à Boursay, mais je sais que vous y viendrez, donc j'insiste pas. Et avec des écoles prestigieuses qui viennent, comme l'école du paysage de Versailles. Bon, alors, c'est ça, c'est pour mettre un petit peu de piquant pour que l'école de Blois puisse venir. Et l'Arboretron, la dernière lubie à Boursay, on a fait un espace, mais c'est pareil, je ne détaille pas. Et puis avec l'arbre, les trognes, on peut faire plein de choses. Moi, c'est un outil de création pour faire de la sculpture, entre autres. Francis Allais, qui a eu la gentillesse de dédicacer, de préfacer mon livre sur les trognes. Et la deux dernières réalisations, le guide pratique des trognes, le guide pratique du plaissage. Et voilà, on est à bout. Merci de m'avoir. On est à bout dans plusieurs mots. À vous la parole.
Moi, je me demandais un peu ce qui arrive aux trognes.
Est-ce que tu peux mettre le... Parce que comme je suis un peu sourd, tu vois, le micro sous ton menton, comme ça.
Comme
sous
ça.
Le menton.
Ouais. Je me demandais ce qui arrive aux trognes qu'on cesse de tailler. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand elles ont été taillées pendant des dizaines d'années et qu'on arrête?
C'est une excellente question. C'est un cas de figure très présent dans les bocages, puisqu'il n'y avait plus besoin de bois de chauffage. Les gens qui étaient attachés aux arbres les ont conservés, mais les trognes, elles ont continué à pousser. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir déjà une fragilité de la tête avec de la pourriture et tout ça, et si bien que on voyait ça hier justement sur le terrain avec la ville de Nantes, là, dans le chemin du vieux bocage dans le Perche, si bien qu'on a des arbres qui sont énormes. Il y a des diamètres qui font 40-50 cm, c'est-à-dire c'est des tonnes qui sont sur la tête de la trogne. Donc là, il peut y avoir de la casse. Donc ça, c'est une chose. Ce qui peut se passer, si l'abandon... se passe plutôt bien, il peut y avoir un de ces rejets qui devient dominant et l'arbre reprend une forme de trogne. C'est-à-dire que quand il n'est pas trop vieux, il peut avoir une structure suffisamment solidifiée pour que lui laisser vivre sa vie de trogne. Voilà, donc c'est ça. Ce qui peut se passer aussi quand ces trognes sont abandonnées, c'est qu'elles peuvent être dominées par les boisements voisins. Donc par manque de lumière, elles peuvent aussi perdre... parce que la clé toujours dans ces systèmes, y compris quand on crée une trogne, c'est de penser à la lumière. Quand on crée une trogne dans un linéaire ou dans un boisement, il faut dégager le boisement autour pour que la trogne puisse, ses bourgeons dormants puissent démarrer et qu'elle puisse s'exprimer. Quoi. Donc ça, c'est important. Quoi. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Est-ce qu'il y a d'autres excellentes questions dans la salle ? Ah oui, je m'en doutais. Ah tiens.
Au niveau du système racinaire, qu'est-ce
qu'il y a ? Oui. Alors là, les systèmes racinaires, comme vous le savez tous, c'est pas très facile à aller explorer. Il y a des explorations qui ont été faites à Restinclière sur le domaine de l'INRA où il y a des expérimentations en agroforesterie. On est sur des limons, on n'est pas vraiment sur des trognes, mais on voit comment l'arbre il va aller plus ou moins chercher en profondeur selon la nature du sol. Donc ça, c'est une chose. Il est probable, et ça peut être une des explications qui justifie aussi le fait que les trognes vivent très longtemps, c'est qu'on le sait, et vous le savez aussi probablement, on a eu tous les ans une mortalité racinaire, des micro-racines considérables. C'est-à-dire que l'arbre perd ses micro-racines comme il perd ses feuilles. Donc ça, c'est difficile à imaginer, mais il y a un phénomène de chute des racines dans le sol. Et il est probable que quand on fait une trogne, l'arbre ayant moins besoin, puisqu'au début, il va réalimenter un houppier très, très réduit, qu'il ait moins besoin d'aller puiser très loin sa matière. Mais ça, c'est une supposition. On peut supposer tout le contraire. C'est-à-dire qu'avec la trogne, on peut se dire que ça va stimuler, comme ça le fait par exemple avec le robinier, le drageonnement de l'arbre pardon, et ses besoins d'aller explorer plus loin. Sachant que les racines fonctionnent en compagnie des champignons mycorhiziens et que ces champignons peuvent multiplier jusqu'à 10 le potentiel d'exploration du sol pour aller chercher de l'eau et des éléments minéraux. Alors, il est probable, il est quasi même certain, comme l'étude le montre avec le frêne dimorphe de l'Atlas marocain, le trognage a un effet sur le fonctionnement des mycorhizes, des ectos ou des endomycorhizes qui sont associés aux arbres. Donc ça, c'est sûr, et ça peut être une des raisons de la longévité très grande de ces trognes.
Bonjour. Est-ce qu'il y a des arbres où on sait que ce n'est pas une bonne idée de faire des trognes ?
Oui, bien sûr. Déjà, quand il n'y a pas nécessité de la trogne, on va laisser l'arbre tranquille. Hein, ça, c'est une chose. Et souvent, on fait de la trogne un peu bêtement parce qu'il y a un semis qui s'est développé près de la maison. Bon, au début, on ne le voit pas. On le voit pas. Il grandit. Puis, on ne s'imagine pas que ce charme ou ce chêne ou ce tilleul, c'est rarement qu'il se ressème, mais ou ce frêne, va faire à un moment donné 25 mètres de haut. Quoi. On intervient très tard, et ça, ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est faire de la trogne, comme je l'ai montré au début, c'est vraiment agir sur un jeune arbre. Ça, c'est une chose. Après, au niveau des essences, il y a des essences qui s'y prêtent moins. On considère que des essences fruitières, comme les prunus, sont moins adaptées parce que les prunus font de la gomme et ils sont très vite touchés par le félin, qui est un champignon qui vient fragiliser la tête. Et les bourrelets de recouvrement ne sont jamais homogènes. Même s'il y a plein de trognes de merisiers en Matisine, dans l'Isère, dans le bocage, mais les paysans, ils faisaient un peu de la trogne sur tout ce qu'ils pouvaient parce qu'ils avaient besoin. Donc ça, c'est une autre chose, quoi. Mais il y a effectivement des essences qui sont un peu moins adaptées que d'autres, quoi. Alors, dans mon guide pratique des trognes, la petite page de publicité, il y a la liste des essences trognées avec aussi les usages qu'on peut apporter et les inconvénients que ça peut avoir, puisque sur certaines essences, comme on disait pour le robinier, ça va stimuler le drageonnement. Alors, il est clair que si vous avez un maraîchage à côté de la haie que vous avez planté et des trognes que vous faites dans la haie, ben, il vaut mieux éviter de mettre du robinier, ce qu'on appelle l'acacia. Voilà. Sachant que l'acacia, le mimosa, le vrai acacia, est aussi un arbre qui drageonne. Et c'est aussi un arbre fourrager. C'est une légumineuse fourragère. Il y a des essences qui sont plantées en ville, comme le sophora du Japon. Un bel exemple qui a été planté sur le trognoscope à l'INRAE de Lusignan. On l'avait mis dans la liste. Et ce trognoscope, il y a 4 plans qui ont été réalisés, plans de plantation pour un même sujet. Un plan témoin qu'on laisse pousser, un plan géré en plaissage, un plan en trogne basse et un plan en trogne moyenne. Eh bien, le sophora, il fonctionne beaucoup mieux en plaisse et en trogne sur cet exemple unique. Hein, c'est pas, faut pas en faire un cas généralisé. Il fonctionne beaucoup mieux quand il a été taillé que quand il pousse tout seul.
Est-ce que c'est des arbres qui sont plus résilients au dérèglement climatique ou...
Eh bien, oui. Oui. Quand vous voyez les trognes présentes, que ce soit dans l'Atlas marocain, que ce soit en Aragon, que ce soit même là-bas dans certains pays africains, on comprend que la trogne est vraiment une solution pour justement répondre à ces problématiques. Les arganiers aussi au Maroc qui sont gérés en trogne, enfin il y a plein d'autres essences qui le sont, des solutions, même si ça peut être étonnant de se dire que le fait de tailler l'arbre, y compris dans des périodes, avec des déficits en eau importants, mais en fait, comme je le montrais tout à l'heure, comme l'arbre a moins un houppier beaucoup moins grand, important à alimenter, le fait de le trogner rééquilibre les déficits qu'on peut avoir dans le sol. Alors c'est le cas aussi, un exemple intéressant qu'on a souvent constaté, et je l'ai moi-même mis en place à bien des reprises, des vieux pommiers des vieux pommiers aux tiges qu'on a dans des vergers, qui sont souvent en fin de course. On voit qu'ils font de la descente de cime. Ils n'arrivent plus à vraiment alimenter. Le tronc est creux. Le geste, généralement, c'est de les couper et de les faire disparaître. Eh bien non, il faut les trogner. Et on va alors augmenter la durée de vie par ce geste radical. Mais à chaque fois, ça marche, quoi. Donc ça, c'est assez surprenant aussi d'avoir des solutions comme ça, parce que tout d'un coup, le peu de racines encore très actives, elles vont plus avoir à aller alimenter une masse trop importante. Voilà.
Petite question concernant les trognes de résineux. Donc on en voit beaucoup moins, est-ce que c'est possible ?
Oui, alors... Les résineux, j'ai vu que tout à l'heure, tu m'as parlé tout à l'heure que tu faisais un travail sur tiers. Alors, à tiers, dans le forêt, dans la Loire et dans cette région, on a des boisements de trogne de pin sylvestre, hein, qu'on appelle les pinatelles. Et c'est sur les terrains les plus mauvais du secteur où les paysans avaient trouvé cette solution de trogner les pins sylvestres. Mais en cherchant sans éliminer les branches de base. Parce que là, on ne travaille pas sur les bourgeons dormants, on travaille sur les parties vivantes et qui se redressent. Et ça, il est retaillé et ça permettait de faire du pain pour les boulangers. Voilà un bel exemple. Et puis après, on a un conifère qui n'en est pas un et un résineux qui n'en est pas un, c'est l'if. L'if, c'est un arbre qui fonctionne comme un feuillu. Vous pouvez le tailler, alors là, autant que vous voulez. Lui, il va résister. Il a une espérance de vie colossale. Vous allez dans les vieux cimetières en Normandie, vous allez voir des ifres qui ont 2000 ans. Donc ça, c'est un arbre aussi qui est... Alors, il a un gros inconvénient quand même. si on peut dire, c'est qu'il est toxique pour le bétail et pour l'humain. Il y a la seule chose que vous pouvez manger chez l'if, hein, c'est la pulpe de la rille, du fruit. Voilà, ça, vous pouvez même faire de la confiture avec. Ce n'est pas extraordinaire, mais un peu sucré. Mais il faut mieux éviter de manger la graine. Mais on voit souvent des conifères, des sapins qui ont été têtés et qui réitèrent, hein, refont des arbres latéralement. Mais ça fonctionne moins bien quand même qu'avec du feuillu, quoi. D'une manière régulière, je veux dire. Alors, vous êtes invité à la Maison Botanique, comme Florian vient donner des cours à l'école ici. Florian, c'est notre salarié qui s'occupe de notamment tout ce que du groupe de planteurs bénévoles. On a quand même à la Maison Botanique pas loin de 200 bénévoles qui participent aux plantations de haies. On va planter cette année, je crois, je sais plus, 7 km de haies, chose comme ça, qui est prévu. Donc, il y a vraiment une dynamique très forte de plantation. Et c'est Florian qui pilote ça avec l'équipe de la Maison Botanique. Donc il y a une vraie dynamique. Et puis on va faire une formation trogne pour les particuliers et les professionnels là, prochainement fin janvier. C'est gratuit, vous pouvez venir, hein, ne serait-ce que par curiosité, participer. Et puis tous les ans, on fait aussi une formation plessage et trogne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on... On met en place le geste du plessage et on peut voir les plessages qu'on fait depuis 2001, puisqu'on a commencé à plesser en 2001. Alors, des plessages qui ont plus ou moins bien été gérés, donc on voit comment, selon la gestion qu'on en fait, comment ça évolue. Et ça aussi, c'est une... parce que c'est bien de planter un arbre, c'est bien de le trogner, c'est bien de le plesser, mais aussi après, c'est bien de le gérer, parce que ça peut devenir... sans intérêt, donc autant le faire pour que, notamment si vous êtes vous dans des contextes urbains, si on fait un plessage pour protéger un endroit dangereux, pour masquer un transformateur ignoble ou des choses comme ça, il faut qu'il soit bien géré si on souhaite qu'il perdure dans le temps, quoi.
Du coup, merci beaucoup Dominique, merci à tous, on va pouvoir clore cette discussion. Bonne soirée.
Voilà, merci.